Pas de négociation avec le général déchu Laurent Kunda, qui combat des soldats FRDC à Sake. Réaction du ministre de l'Intérieur, Denis Kaloumé, qui séjourne actuellement à Goma. Ces éléments de Laurent Kunda réclament leur solde. La nature en colère au Nord Kivu, le volcan Nyamulagira est en éruption depuis lundi. Pas de danger pour la population locale, a signifié un vulcanologue sur place. Pas de chasse dans la province de l'Équateur et ce jusqu'au 14 mai 2007. Une décision du gouverneur de province, Yves Mobando, veut permettre aux animaux sauvages de se reproduire. Mesdames et messieurs, bonjour. Il n'y aura pas de négociation avec le général déchu Laurent Kunda qui combat depuis 4 jours maintenant des soldats FRDC dans les environs de la localité de Sake à 27 km de Goma. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur Denis Kaloumé qui séjourne à Goma depuis lundi dernier au Nord Kivu. Le ministre Kaloumé ajoute également que ses troupes fidèles à Laurent Kunda ne seront pas payées par le gouvernement congolais comme par le passé avant qu'elles ne se rendent au centre de brassage. Une équipe du Baraza Lawazé du Nord Kivu, une structure qui regroupe les 9 communautés autochtones de la province et qui devrait rencontrer Kunda ce mercredi, a été chargée de lui transmettre ce message. Le général Denis Kaloumé au micro de Gisèle Cage.
Laurent Kunda est considéré comme criminel tant international que national. Le gouvernement ne doit pas négocier avec Laurent Kunda. Le gouvernement vient avec un ultimatum. On lui demande 1. De cesser les hostilités, 2. De replier ses hommes, 3. De les mettre à la disposition du gouvernement pour le brassage. Voilà le message que nous demandons aux membres du Barça Intercommunauté de lui amener.
La 81e et la 83e brigade qui s'affrontent avec d'autres troupes intégrées, nous savons que ces brigades sont toujours payées par le gouvernement. Est-ce que cela va continuer?
Ça ne doit pas continuer parce que certaines communautés croient qu'en ayant une brigade monolithique, ça donne des garanties de leur protection. Mais nous leur disons c'est une erreur. La meilleure protection, c'est l'État qui doit donner pour l'ensemble des communautés. Et pour cela, il faut envoyer ces jeunes dans les centres de brassage. Ils vont construire une armée forte républicaine nationale qui pourra défendre tout le monde sur le même pied d'égalité.
En rapport avec les hostilités au Nord Kivu, cette fois dans la province du Sud Kivu, les humanitaires parlent déjà de plus de 700 familles, soit près de 4000 personnes qui seraient déplacées dans la localité de Minova, à 30 km au sud de Sake. Selon le responsable de l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Ocha Bukavu, ces déplacés seraient sans assistance. Mobidibo Traoré, chef du bureau de Ocha Bukavu, explique qu'ils ont des difficultés à accéder à cette zone à cause des conditions de sécurité. On l'écoute, il est au micro de Serge Maéchi.
Et nous espérons que très très bientôt, nous allons nous y rendre pour évaluer les besoins de ces personnes déplacées qui se trouvent bien sûr dans des situations assez difficiles. De ce côté, il faudrait renforcer les structures de santé qui sont là-bas en médicaments pour la prise en charge des malades et renforcer la prévention également en ce qui concerne du choléra dans la zone. Les besoins pourraient être également de nature du bien non alimentaire, donc les NFI, et cela dépendra également de ce que nous allons identifier sur place en termes de besoins en kit non-vivre, comme nous les appelons. Il faudrait que la mission puisse s'y rendre pour identifier de façon plus précise les besoins en non-vivre et pouvoir les adresser plus tard.
L'insécurité bat son plein au nord-est de Butembo, les Maïmaï réfractaires au processus DDR, pillent les fermes et même les animaux de basse-cour. Cette insécurité entretenue par les Maïmaï du commandant Baraka freine l'élevage dans cette partie du groupement Malio. Les détails avec Étienne Moïndo.
Les pillages des fermes et des animaux domestiques se multiplient à Kiavisoro et Mbilinga, deux localités situées à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Butembo. Dans un rapport adressé ce mardi au chef de groupement Malio, la population de Kiavisoro et Mbilinga se plaint d'être rationnée continuellement par les maïmaï du commandant Baraka. Toujours selon ce même rapport, les maïmaï du commandant Baraka non seulement freinent le développement de l'élevage, mais aussi violent les femmes et n'hésitent pas à prendre certaines d'entre elles en otage. Selon l'ONG Mission d'aide aux déplacés qui s'occupe du recensement des déplacés dans le secteur de Lubero-Butembo, une centaine de familles ont fui le secteur de Kiavisoro-Mbilinga pour échapper aux exactions des Maïmaï du commandant Baraka. Les déplacés vivent dans des familles d'accueil à Butuhe et à Burundo, à une dizaine de kilomètres au nord de Butembo. De Butembo, Etienne Mouindo, Radio Okapi.
Restons à l'est du pays avec cet malheureux événement de malheureux et 10 blessés. 2 morts et 10 blessés, tel est le bilan d'une explosion de grenades survenue hier entre Aveba et Doi, deux localités situées au sud de Bounia. Selon les sources proches de la MONUC, un milicien du FMI se trouvant avec un groupe de ses camarades sur le toit d'un véhicule blindé de la MONUC a fait tomber sa grenade par imprudence. Lui-même ainsi qu'un autre milicien ont succombé. Sur les 10 blessés enregistrés, 8 ont été évacués à l'hôpital du contingent marocain de la MONUC à Bounia. Signalons que les victimes venaient d'assister à la cérémonie de signature d'accord entre le FRP et les FRDC. Parlons encore de l'insécurité, mais cette fois dans la province du Katanga, à Kolwezi, des inconnus non entièrement identifiés sèment la terreur et agressent des paisibles citoyens la nuit. On compte déjà 4 victimes en 5 jours, 3 personnes tuées et un agent d'une maison de gardiennage blessé. Ce dernier n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de la police. Les autorités civiles et la police affirment que des enquêtes sont en cours afin d'identifier les auteurs de ces crimes. Donna Chimboj nous en parle.
La première victime a été enregistrée le vendredi dernier. Il s'agit d'un jeune homme de 27 ans. D'après sa famille, il serait parti chercher de la cigarette dans le quartier, mais il n'est jamais revenu. Son corps a été découvert le lendemain portant des blessures à la tête. Un jour après, c'est le corps d'une jeune fille qui a été retrouvée dans un lac de la cité. Le lundi, un agent d'une maison de gardiennage a été agressé à son poste par 3 inconnus armés et en tenue civile. La population puis la police sont intervenus pour les sauver. Le dernier cas a été enregistré hier mardi. Il s'agit d'une femme retrouvée morte dans sa maison à la commune Manika. Toutes les sources contactées s'accordent sur le nombre de victimes mais pas sur les circonstances et l'identité des agresseurs. Pour la société civile, il s'agit tout simplement des assassinats. Quoi qu'il en soit, cette situation crée une véritable psychose dans la ville de Kolwezi. La police criminelle et le maire de Kolwezi annoncent que des enquêtes se poursuivent pour savoir s'il s'agit des cas isolés ou des actes d'un groupe de criminels. Lubumbashi, Donat Chimbosh, Radio Okapi.
Encore des réactions à l'élection de Joseph Kabila en qualité de président de la RDC. D'abord celle de la Maison-Blanche. Dans un communiqué, le porte-parole de la résidence américaine félicite le président Joseph Kabila. Les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple congolais et continueront à soutenir les efforts menés pour construire une démocratie prospère, dit ce communiqué. L'autre réaction vient de Kofi Annan, qui félicite Joseph Kabila. Le secrétaire général des Nations Unies félicite aussi le peuple congolais, dont la détermination a permis la tenue des premières élections démocratiques en RDC depuis plus de 40 ans. Kofi Annan souligne aussi le rôle important d'une opposition dans une démocratie et encourage la mise en place d'un processus politique inclusif afin de lever les nombreux défis sécuritaires et de reconstruction. Au nord Kivu, le volcan Nyamulagira, l'un des 2 volcans actifs du Congo, situé au nord de Goma, est en éruption depuis le lundi 27 novembre dernier. Vers 21h locales, la lave coule essentiellement dans le parc de Virunga. Pas donc de danger immédiat pour la population de Goma et ses environs. Cependant, des précautions d'hygiène sont recommandées. Il faut par exemple couvrir les aliments et les boissons. Mais l'éruption du Nyamulagira peut-elle influencer celle du Nyiragongo proche? C'est la question que Sylvestre Kilolo a posée au vulcanologue Kasereka Mainda de l'Observatoire volcanologique de Goma.
Les 2 volcans sont des caractéristiques différentes. Ils sont aussi éloignés l'un de l'autre. Le seul problème, ils sont dans le même fossé d'effondrement. Mais l'éruption de Nyamulagira ne provoque rien l'éruption de Nyiragongo. Et s'il y a un volcan que nous sommes en train de suivre très bien, c'est le Nyiragongo. Donc, la population va vaincre librement ses occupations. Le Nyamulagira ne menace pas, ne peut pas entraîner le Nyiragongo à entrer en éruption.
Rappelons que l'éruption du volcan Nyamulagira a lieu presque chaque année. Souvent, la lave se dirige vers le parc national des Virunga et donc une zone inhabitée. Le marché de Kasenga Kakombe à Uvira, de plus en plus détruit par des fortes pluies. Le débordement de la rivière Mulongwe occasionne aussi la destruction du 2e marché de ce territoire du point de vue importance. Conséquence, ce marché se tient le long des avenues du quartier environnant et même dans les concessions de l'église protestante de la 8e CEPAC. Les marchands demandent aux autorités administratives de draguer la rivière Mulongwe en vue de mettre fin à son débordement. Fiston Goma.
Ce marché, appelé communément Soko Muinga, fonctionne depuis 10 ans les soirs. Il est situé au bord de la rivière et en amont du pont Moulongwe. Depuis le dernier pluie, le débordement de cette rivière a pratiquement nettoyé tout, emporté les étalages, permis l'avancée de la rivière jusque dans le parcelle environnante. Selon le président du comité de marché d'Ouvira, cette situation met en difficulté les marchands qui ne savent pas où aller. Pour Nganga Mazese, les taxes récoltées par le service de l'État sur l'exploitation de ces marchés devraient servir à draguer les lits de la rivière pour éviter son débordement. Toutefois, il s'est dit opposé à l'idée de transférer ce marché dans un autre site avant de songer à sa réhabilitation. Contacté, le chef de cité d'Ouvira, Kita Itako, a précisé quant à lui que l'urgence serait de transférer ce marché à celui de Moulongwe qui devra désormais se tenir du matin jusqu'au soir. Notons que vendredi prochain, le conseil territorial tranchera la question entre la réhabilitation du marché Soko Muinga ou son transfert dans un autre site. Depuis Ouvira, Fistongo Mamayaba, la Radio Okapi.
Au chapitre des voleurs, en province orientale, le propriétaire d'une cargaison de mitraille et de cuivre est présentement écroué à la prison centrale d'Isiro. Sachez qu'Isiro est situé à plus de au moins 600 km au nord de Kisangani. Rappelons que cette cargaison d'une tonne et 400 kg de cuivre, issue des câbles électriques dénudés, avait été interceptée à l'aéroport d'Isiro. Pour le procureur de la République, près le tribunal de grande instance, son arrestation a permis de mettre la main sur plusieurs autres personnes impliquées dans ce trafic illicite du cuivre destiné à l'exportation vers l'Ouganda via Beni dans le Nord Kivu. Des explications depuis Isiro avec Jacques Moukonkole.
Au total, 6 personnes arrêtées et croupissant actuellement dans la prison d'Isiro. Parmi elles, le propriétaire des sacs saisis par le parquet. Sacs contenant des fils à basse et haute tension ainsi que des gaines en plomb. Selon le procureur Frank Bokota, le propriétaire des sacs est un commerçant de la place qui opère avec la complicité de certains services officiels, notamment l'Agence nationale du renseignement et le service de l'environnement. Ce dernier avait délivré un document avalisé par l'ANR pour l'embarcation des sacs dans l'avion. Document dit autorisation d'évacuation des déchets non toxiques. Nous n'avons pas pu atteindre le chef du bureau de l'environnement, son bureau étant toujours fermé. Mais le chef de poste principal de l'ANR, Étienne Angèle Matamba, dit être engagé personnellement dans la lutte contre la fraude, bien avant même l'installation de la semelle à Isiro. Il justifie son aval à l'embarcation de ses produits par le fait qu'un service technique ait délivré préalablement son autorisation. En outre, a-t-il affirmé, son agent m'avait constaté au départ que la ferraille est non des fils électriques. Pour le moment, les enquêtes se poursuivent, affirme le procureur Franck Bokota. Depuis Isiro, Jacques Moukonkole, Radio Okapi.
Suspension de la chasse depuis le 16 novembre 2006 et cela jusqu'au 14 mai 2007 sur toute l'étendue de la province de l'Équateur. Une décision du gouverneur de province Yves Mobando, objectif permettre aux animaux sauvages de se reproduire. C'est la deuxième fois pour la même année qu'une telle mesure est prise, mais cette décision n'est pas la bienvenue chez les femmes vendeuses de la viande du gibier, Ghislaine Nentobo.
La décision de suspension de la chasse à l'Équateur couvrait la période du 15 mai au 15 août 2006 et la chasse a été rouverte pour la période des 16 août au 15 novembre. Chaque année, la chasse doit être suspendue 2 fois à l'Équateur pour permettre à certaines espèces d'animaux protégés comme les chimpanzés, les bonobos, les crocodiles, les éléphants, les hippopotames de se reproduire. Des espèces menacées de disparition suite au braconnage pratiqué dans les réserves et au parc de la Salonga. Les braconniers attrapent parfois des jeunes animaux pendant la tétée après avoir abattu les parents. Pour les services de l'environnement et conservation de la nature, protéger ces espèces en voie de disparition s'avère indispensable. Pascal Biseka, coordinateur provincial de l'environnement et conservation de la nature.
C'est une période qui a été déterminée par les scientifiques pour que les animaux puissent se reproduire et se reposer aussi. Il ne faut pas que chaque fois qu'ils entendent le coup de feu dans la forêt, et ça ait un impact sur la reproduction même des animaux. L'avantage, c'est qu'au lieu d'aller plus loin dans la chasse, avec le temps, les animaux seront nombreux et ils seront maintenant plus près des villages, des agglomérations.
Mais la mesure des suspensions de la chasse n'enchante pas les mamans vendeuses de la viande boucanée ou fraîche qui s'approvisionnent auprès des chasseurs. La plupart estiment que pendant tous ces temps, elles qui sont habituées à ces commerces vont perdre leur clientèle et ne sauront comment faire face aux différentes dépenses de leurs foyers respectifs. Cependant, la suspension de la chasse était observée régulièrement pendant la colonisation, une habitude que la population, tout comme les autorités, ont perdue au fil des ans. Justine Ntobo, Bandaka, Radio Okapi.
C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.radiokapi.net ou en ondes courtes sur 11 890 kHz. Okapi.